insérés dans le marché de l'emploi national, parfois même mieux que la population majoritaire. Du coup, tout cela contribue à un stéréotype en tant que minorité modèle, entre guillemets, c'est-à-dire une minorité qui est mieux insérée, qui est mieux réussie. Tout cela rend aussi que pour les Asian Americans, ça devient plus difficile de remettre en cause leur statut minoritaire. Sans doute, il faudrait aussi plus de prise de conscience pour que le racisme anti-asiatique pourrait être pris au sérieux aux États-Unis.
Yan Chuang avec Romain Lemaresquet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à l'écoute des RFI.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-jacente.
J'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chaque fois, je pense à toi qui adore le foie et moi qui le déteste. Je bloque mes narines quand je soulève ces foies entiers, glissants et puants de 5 kilos chacun, me disant que ça te ferait des steaks adorés. Les autres abats dans un autre sac. Je mets rituellement le cœur premier. L'ordre de la langue, des rognons et des joues importe peu, parce que le cœur, c'est la vie. Me répétais-je comme un con à chaque fois.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Voici aujourd'hui la présentation d'un livre étrange. Ce n'est pas un roman avec des personnages et une narration d'une histoire. Ce n'est pas une autobiographie, même si ce texte reflète une expérience vécue. Ce n'est pas tout à fait un poème. Encore que le rythme, les images, les passages à la ligne peuvent y faire penser. Il fonctionne un peu comme une prose poétique, sans ponctuation, qui témoigne d'une expérience personnelle dont on parle peu en littérature, le travail en usine dans l'agroalimentaire. Alors quoi ? Ce livre inclassable de Joseph Pontus s'intitule « À la ligne ». Il est paru aux éditions de La Table Ronde en 2019 et il est désormais disponible en livre de poche dans la collection Folio. Pourquoi ce titre ? À la ligne, comme l'expérience que fait le narrateur du travail à la chaîne sur une ligne de production. En effet, Joseph Pontus, éducateur spécialisé, ne trouvant pas de travail, s'embauche comme intérimaire dans une usine agroalimentaire de Bretagne. Conditionnement de crevettes, de bulots, de tofu, et plus tard, le port des carcasses de porcs, de bœufs, destinés à la consommation de viande.
Tu faisais quelque chose avant l'abattoir ?
Ouais, éducateur, dans le social, tout ça. Puis, ben, j'ai quitté la région parisienne, épousé celle qui m'attendait, et puis il faut bien bosser. J'y allais pas pour faire un reportage. Encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit.
Joseph Pontus témoigne de ce travail avec talent, à la fois par une peinture précise des tâches et des gestes, des odeurs et des bruits, mais aussi par une culture héritée de ses études. Il n'en fait pas démonstration, mais le moment venu, il peut invoquer, entre autres, Apollinaire, Hugo, Zola, Aragon, Pérec, écrivains qui nourrissent son vécu et qui le soutiennent. Le soutiennent aussi des musiques de chansons. Chansons de Balavoine, Véronique Sanson, Johnny Hallyday et plus particulièrement Charles Trenet. Mais laissons parler le texte.
Nos immenses lignes de machines, ventres de métal où sont décongelées, triées, cuites, retriées, empaquetées, étiquetées, re-retriées les crevettes, maintenant s'appellent Coaxial, Ishida, Multivac, Arbor, Bizerba.
Demain, ô mes tonneaux des Danaïdes, comme disait l'Apollinaire, puissant fond de la quarantaine de tonnes de crevettes quotidiennes, je reprends mon usine. Je retourne aux crevettes dans le simple rudoiement de ceux qui n'ont que leurs bras à vendre, leur paix à lâcher, leur blague de cul à 6h du matin. Quoi qu'ils chantent, qu'ils se posent ou non des questions existentielles en triant leurs crevettes, je serai des vôtres, travailleurs de l'usine, des questions sur le grand tout, sur rien. Sur la littérature, sur le reste, sur les crevettes, ce qui revient fondamentalement au même. 8 heures par jour, par nuit, derrière des machines. Je sais que la première occurrence du mot « crevette » est chez Rabelais. Cela me plaît et se raccorde au relent gastrique de l'usine. Sortir de l'usine, le soleil et la chaleur quand il y en a. Fumer, rentrer. Boire, baiser, pleurer, rire, vivre sa vie ailleurs qu'à la crevette, dormir, mettre le réveil, dormir d'un sommeil de plomb. Demain, retourner à la crevette.
Écoutons le rythme incessant de ce travail.
Les crevettes, les bulots, les crevettes, les crevettes, les cartons. Les autres cartons encore, ces foutues crevettes. Attendre que le chef te donne ta pause. Reprendre les crevettes, les bulots, les crevettes, les crevettes.
Ce travail répétitif de jour et de nuit met en évidence la question du temps. Le temps est, dans l'expérience humaine, subjectif. Nous savons qu'une heure de file d'attente paraît en général plus longue que le visionnement d'un film palpitant. Alors, comment Joseph Pontus vit-il ce temps ?
L'usine est plus que toute autre chose un rapport au temps. Le temps qui passe, qui ne passe pas. Évitez de trop regarder l'horloge. Rien ne change des journées précédentes.
Et en particulier, le travail de nuit.
Le rythme de mes 8 heures de nuit est bien étrange à assimiler pour et par mon organisme. À quelle heure se lever, se coucher, faire une sieste, manger, boire un café ou l'apéro. Je pensais tout décaler de 12 heures. J'embauche à 21 heures, donc c'est comme si c'était 9 heures du matin. Et le reste suit au niveau correspondance horaire. Fin du taf à 5 heures, soit 17 heures. Mon cul. Bref, il est 7 heures. Il fait jour. Il faut dormir. Je ne sais si je me sers un café ou un verre de rouge. Je vais sans doute marmonner un slow de Johnny en me couchant auprès de mon épouse endormie que je n'oserais réveiller. Ici, le temps n'en finit pas.
La lune qui brille
Actu littéraire, vous êtes sur Radio G 101.5. Laissez-vous séduire par des auteurs qui vous emportent. La pause arrive à 1h10 du matin. Elle sera jusqu'à 1h40. Je ne sais si c'est légal d'avoir une pause plus de 6 heures après sa prise de poste, mais je m'en fous. Il restera 3 heures d'égouttage de tofu. Clope, café, clope, un sneakers, clope. Un texte de mon épouse qui pensait à moi à 23 heures. Je souris tristement. Si elle savait. Mais c'est l'heure. Une dernière latte de clope. Bon cul, je l'écrase bien vite. Le vestiaire en urgence, la tenue, la pointeuse, c'est reparti, j'égoutte du tofu. Encore 3 heures à tirer, plus que 3 heures à tirer. Il faut continuer, j'égoutte du tofu. Je vais continuer, la nuit n'en finit pas, j'égoutte du tofu. La nuit n'en finit pas, j'égoutte du tofu, j'égoutte du tofu. À travailler de nuit, je perds le goût des jours.
Ce travail de nuit se poursuit jusque dans la vie personnelle, et cela dès le vendredi.
J'en chie à l'usine, mais à l'usine on se tait. C'est le week-end, je ne sais pas dormir. À cette heure-ci, je devrais être sur ma ligne. Il devrait me rester 2 heures de boulot. 2 heures de boulot de merde, de chaîne, de ligne. C'est le week-end. Je devrais reconstituer ma force de travail, c'est-à-dire me reposer, dormir, vivre ailleurs qu'à l'usine. Mais elle me bouffe, cette salope. Je viens de sortir fumer ma clope à la maison. Je retrouve les gestes machinaux de la nuit à la pause, tirer vite fait et allumer un mégot au mégot de l'autre. Je reprends après-demain. C'est comme si c'était demain. Commencer à préparer son rythme de sommeil, son rythme de vie que l'usine impose. Il faut y aller. Il faut dormir. Il faut. J'en chie de cette usine, de son rythme à la con, de ces trucs insensés à faire tous les soirs. Ne pas le dire, l'écrire. J'ai mal de mes muscles. J'ai mal de cette heure de pause où je devrais être, mais où je ne suis pas. En fumant ma clope chez moi, je suis encore à l'usine. Qui pourra me covoiturer demain ou après-demain? À travailler de nuit, je perds le goût des jours. C'est dur. Si je ne covoiture pas, je n'aurai plus de boulot. Ce sera la mort. Ce sera la merde. On verra bien avec les collègues. Mais s'il faudrait déjà que l'on se parle, malgré les bouchons d'oreilles et les machines qui martèlent nos silences à la pause... Pourquoi se dire, et quoi se dire d'ailleurs? Que l'on en chie? Que l'on peine à trouver le sommeil le week-end? Mais que l'on fait comme si tout allait bien? On a un boulot, même si de merde. Même si l'on ne se repose pas, on gagne des sous. Et l'usine nous bouffera et nous bouffe déjà. Mais ça, on ne le dit pas, car à l'usine, c'est comme chez Brel. Monsieur, on ne dit pas, on ne dit pas.
Joseph Pontus évoque par ailleurs les odeurs. Odeurs tenaces de fruits de mer, odeurs fades et écœurantes de la viande.
L'odeur des premiers jours, cette odeur de bulot, odeur de mort, de racrevé, de vase, de pisse, de mauvais vin, mélangé, macéré, imbibé. Je n'y fais même plus attention.
Sans parler de l'obscurité des salles de travail, où n'entre pas le jour.
Le matin, c'est la nuit. L'après-midi, c'est la nuit. La nuit, c'est encore pire. Dès qu'on rentre dans l'usine, c'est la nuit. Les néons, l'absence de fenêtres dans tous nos immenses cubes d'atelier. Une nuit qui va durer nos 8 heures de travail minimum. On sort du sommeil encore marqué de rêves d'usine pour replonger dans une autre nuit artificielle, froide et éclairée de néons. Dès lors, c'est comme si on continuait sa nuit. Entre la nuit de la maison et celle de l'embauche, le réveil, 2 heures de transition, yeux embrumés et café serré.
Ce serait donc ça le matin, tous les matins du monde. Au vestiaire avant l'embauche, encore 5 minutes avant de replonger dans la nuit. J'admire sincèrement toutes les ouvrières et tous les ouvriers qui ont pris leur douche et se sont parfumés. Mais je ne peux pas. La douche, c'est le soir, enfin, en rentrant du boulot. Certains se pomponnent vraiment, doivent s'affairer devant leur miroir. Les miroirs à l'usine, il y en a aux intersections et aux virages à angle droit dans les couloirs sans fin, de sorte que l'on voit les transpalettes arriver et ainsi ne pas se faire rouler dessus. On ne se regarde pas dedans. De toute façon, on sait à quoi l'on ressemble. Une tenue blanche, maculée de sang, comme celle de tout le monde. Des corps fatigués, des yeux qui continuent. Pas moi. L'usine, c'est une tenue que je garde une semaine et qui se cradifie et pue de plus en plus au fil des jours. Machine, le vendredi ou le samedi. J'imagine que pour elle et pour eux, ce doit être affaire de dignité ou d'une certaine forme de noblesse que d'arriver propre et sentant bon à l'abattoir, malgré ce qu'il y aura à faire. Le matin, entre mes deux nuits, je suis là sans y être, comme si j'étais en transition. La vraie vie sera à la débauche. Je veux croire que l'usine, j'y suis en transition, en attendant de trouver mieux, même si ça fait 1 an et demi quand même que je ne trouve pas. Je veux croire que je suis là, sans y être. Alors, dans ce monde de la nuit, il n'y a pas de matin, de soir, ni même de nuit. Il y a les néons qui éclairent des ateliers ou des tenues maculées de sang travail. Des gens se sont douchés avant, d'autres non. Il y a surtout tous ces matins du monde où chacun dans sa nuit rêve à un monde sans usine, à un matin sans nuit.
Et parfois, le comble, pour exécuter le travail, le matériel manque.
Ben oui, c'est comme d'hab, ils ont voulu tout précipiter. Rien de bon ça. Et que ça va être Noël et les fêtes, et les machines qui ne marchent pas. Chef, sors de ton bureau. Viens prendre la pelle, 5 minutes à l'atelier. Et tu verras comment on aura plus vite notre transpalette électrique.
Et ce sont aussi des changements d'horaires inopinés, qui font qu'on ne peut plus covoiturer, qu'il faut payer un taxi qui vaut une demi-nuit de travail. Sans parler d'une sorte de carnet ouvrier qu'on impose, inutile, et qu'on doit remplir chaque jour pour marquer ses compétences et ses progrès. Ce travail sollicite le corps par la rapidité des gestes ou par le poids quand notre narrateur doit transporter des carcasses de porcs ou de bœufs sur la ligne.
Cette semaine, on m'a changé de poste. Je ne nettoie plus la merde, les panses, les cornes, le sang, le gras, la mort des bovins, puisqu'avec mes mauvais yeux et mes lunettes, j'y voyais trop mal et laissais passer trop de déchets. Je déplace des carcasses suspendues en hauteur à des rails. Un boulot physique. Ce sont des quarts de bœuf ou de vache ou de taureau ou de jeunes bovins, soit environ 100 kilos le quartier. Je pousse les carcasses par 8. Je fais des gestes de pilier de rugby et de chef de gare qui aiguillent ces carcasses et les oriente et les pousse vers les lignes. Commande supermarché, désossage, prête à découper ou autre voie de garage. Je me suis pris une carcasse sur la botte de sécurité. J'avais mal fait mon aiguillage. Le pied gauche est noir et violet malgré la coque. Heureusement qu'elle était là, sinon le tranchant de la carcasse me rendait infirme. Je demande au chef combien de temps durera la mission. Il me répond « Tant que tu seras gentil. » Malgré les doigts coupés, les jambes de bois, le pied que j'ai failli perdre, l'abattoir vend du rêve.
La semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le kiné. Mon corps commence doucement à être ravagé par ce bon bois de carcasse. Tout mon corps. Mes muscles, mes articulations, mes lombaires, mes cervicales, le reste de mon corps dont je ne sais pas le nom. Mes cauchemars sont juste à la hauteur de ce que mon corps endure.
Mais tout n'est pas noir. Il y a la solidarité, sauf quelques tirs au flanc. Tous les ouvriers sont dans la même galère. Il y a les rires partagés, le café, la clope, et bien sûr, l'argent. L'auteur ne s'en cache pas. Et puis, il y a les petites compensations. On peut, au passage, subtiliser des langoustes, des pinces de crabe. Et ce n'est que justice.
J'ai compris la technique. J'ai vu les horaires, les planques et les moyens de sortir les trucs. Deux langoustes, donc. Juste faites en rentrant hier avec un riz basmati tiède et de la mayo maison. C'est pas mal, la langouste. Je ne vole rien. C'est rien que de la réappropriation ouvrière. Tout le monde le fait. Je m'approprie mon usine à ma manière.
Tout n'est pas noir. Il y a la littérature aussi qui soutient, nourrit le vécu. Ainsi, le travail de l'abattoir rappelle à Joseph Pontus les poèmes d'Apollinaire sur la guerre de 1914.
Ah Dieu, que la guerre est jolie, qu'il écrivait le Guillaume du fond de sa tranchée. Nettoyeur de tranchées, nettoyeur d'abattoirs, c'est presque tout pareil. Je me fais l'effet d'être à la guerre. Les lambeaux, les morceaux, l'équipement qu'il faut avoir, le sang, le sang, le sang, le sang.
Et à la fin de son texte, Joseph Pontus reprend la structure poétique du poème d'Apollinaire bien connu, Il y a. Je vous en cite un passage. Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée. Il y a dans le ciel six saucisses. Et la nuit venant, on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles. Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour. Il y a mille petits sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi. Joseph Pontus connaît la jouissance dans l'utilisation et la recréation de la langue. Il crée des mots, par exemple la chéfitude. Il détourne des expressions comme valoir son pesant de moutarde qu'il transforme en il vaut son pesant de sardine. Il joue avec les sons et du coup avec le sens. Suite à la grève des personnels, il écrit « En avant, Marx !» qui fait écho au très militaire « En avant, marche !» Enfin, des expressions communes retrouvent toute leur force concrète dans le contexte des carcasses d'animaux, comme « aller à l'abattoir »,« suer comme un bœuf ». Il mêle les niveaux de langue. On entend presque juxtaposer l'expression « mon cul » et une citation bien polissée de la Bruyère. Mais mieux encore, il y a le chant.
À l'usine, on chante, putain qu'on chante. On fredonne dans sa tête. On hurle à tue-tête couvert par le bruit des machines. On sifflote le même air en tétant pendant des heures. On a dans le crâne la même chanson débile entendue à la radio ce matin. C'est le plus beau passe-temps qui soit. Et ça aide à tenir le coup. Penser à autre chose, aux paroles oubliées, et à se mettre en joie. Quand je ne sais que chanter, j'en reviens aux fondamentaux. L'international, le temps des cerises, la semaine sanglante, traînait. Toujours traînait, et encore le grand Charles, sans qui nous serions tous des comptables, comme dirait Jacques Brel. Traînait qui met de la joie dans ce putain d'abattoir, qui me fait sourire à mon épouse quand j'ai ta main dans ma main, et puis la folle complainte reste quand même la plus belle chanson de tous les temps. Ou Ménilmontant, l'âme des poètes. Je les cite, Reggiani évidemment, Daniel Darc, Nougaro, Brel, Philippe Buty, Fersen, Friel et la Môme, Vian, Jonas, les frères Jacques ou Bachung, les Wampas, Ferrat, Bourville, Stromae, NTM, Anne Sylvestre et toujours Le Prest et Barbara. Trenet me sauve le travail et la vie de tous les jours que l'usine fait. Sans lui, sans son absolu génie, je suis sûr que je n'aurais pas tenu, que je ne tiendrais pas, sauf les jours sans. L'autre jour, à la pause, j'entends une ouvrière dire à un de ses collègues « Tu te rends compte, aujourd'hui c'est tellement speed que j'ai même pas le temps de chanter. » Je crois que c'est une des phrases les plus belles, les plus vraies et les plus dures qui ait jamais été dite sur la condition ouvrière.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil.
Il y a aussi l'amour de la mère et de la bien-aimée, toujours présente en filigrane, et les promenades avec son chien Poc Poc qui le raccroche à la vie.
Mon chien Poc Poc, si tu savais en rentrant chaque jour comme ça me coûte d'aller te promener. Je suis au bord de l'épuisement, même pas au bord d'ailleurs, complètement épuisé, ravagé de fatigue, prêt à m'endormir sur place à peine mon retour. Mais en rentrant, à chaque fois, la joie, et même plus que la joie de te savoir derrière la porte, vivant, à frétiller de la queue et du popotin, à faire cette fête des retrouvailles. Oh, tu dois aimer cette odeur d'abattoir que je transpire. Mes mains que tu lèches comme des bonbons, mes habits que tu renifles. Tu es vivant, mon Poc-Poc, et moi accablé de fatigue, mais si heureux de te voir vivant et heureux. Ça me change des animaux morts sur lesquels je bosse à longueur de journée.
Ce chemin parcouru dans l'épreuve du travail répétitif, harassant, est comme un trajet initiatique qui n'est pas sans rappeler l'expérience de la cure analytique vécue par Joseph Pontus dans le passé. Il s'agit bien d'accepter la réalité comme elle est. C'est dur, chiant, ennuyeux, mais c'est comme ça. Il s'agit de rester debout avec force, courage, endurance. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, la fin de cette émission qui a été préparée et lue par Christine, Dominique et Paul et montée par Claude Michel, que nous remercions. Merci aussi aux éditions de la Table Ronde pour leur aimable autorisation. Vous trouverez, je vous le rappelle, ce livre en livre de poche, en folio.
Quelques jours après notre enregistrement, nous avons appris le décès de Joseph Pontus à l'âge de 42 ans. Une vie courte, mais bien remplie. À travers ce livre, Joseph Pontus nous aura laissé un témoignage que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille. Creux des reins, le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main. Une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal. qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense, à ceux qui n'en sont pas revenus.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G 101.5 FM. 101.5 FM.
Freak, I know what you're into. Make me sick.